Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing, un programme 100% NASCAR cette semaine. Il y aura peut-être une petite entorse avec un tout petit peu d'IndyCar par Aloïs qui est super calé, mais bon, on va dire qu'il n'y a que de la NASCAR. Donc Aloïs est là, salut Aloïs.
C'est le Geoffroy, bonjour à tout le monde.
Et Lilian aussi, salut Lilian.
Salut Geoffroy et bonjour à tous.
Et il enchaîne, c'est Arnaud qui est là aussi. Salut Arnaud!
Je suis sur une bonne série là. Salut Geoffroy, salut tout le monde.
Effectivement, garde la main. Oui, Aloïs, allez, on va commencer par toi tout de suite. Vu que tu étais chaud, tu avais 2-3 infos d'IndyCar. Ils sont à Barber en essai. On a la livrée de Johnson qui a été dévoilée. Et tu avais des infos sur Romain Grosjean pour ses premiers tours de roue.
Effectivement, Romain Grosjean est monté dans la première fois dans une monoplace IndyCar à Barber, comme tu le disais, Geoffroy. Il a soufflé le chaud et le froid. C'est plutôt bien parti, j'ai l'impression, puisque sur ses premiers tours de roue, il en a tourné 14 apparemment. Il s'est rapproché à 1 seconde 1 du premier temps qui était réalisé pendant ses essais. Mais un peu plus tard, il a fini dans les pneus au turn one. Donc la voiture est endommagée et malheureusement les tests s'arrêtent prématurément, ce qui est un petit peu dommage. Et surtout en sachant que c'était ses premiers tours de roue après son accident miraculeux à Bahreïn. Donc une bonne chose et une mauvaise chose, j'ai envie de dire.
Ok, ouais, bon, voilà, c'est l'adaptation, il faut que ça se passe. La première course de la saison est encore dans quelques temps et il y aura d'autres essais encore d'ici là. Ça devrait le faire pour Romain Grosjean.
Bon, il y a encore 6 mois, c'est bon.
Presque. Allez, voilà pour la partie IndyCar. On va rentrer dans le vif du sujet avec la NASCAR, messieurs. Et Lilian, la NASCAR était à Daytona. C'était pas l'ovale, c'était le routier. Chase Elliott a dominé. Chase Elliott n'a pas gagné. Et on a eu une belle surprise avec Christopher Bell.
Bah, tu l'as dit, on attendait Chase Elliott. Chase Elliott a répondu présent, mais Chase Elliott n'a pas gagné. Je pense qu'on en reparlera, mais il a dû dire quelques mots quand même à ses mécanos. Parce que c'est quand même 2 fois ses mécanos qui le mettent au top.
Il a récupéré ce Dameline, peut-être, non?
Peut-être, pas enfin, Hamlin, non, c'était les pénalités, mais bon, en tout cas, là, 2 fois, on y reviendra, et puis, bah, tu l'as dit, week-end de rêve pour la Joe Gibbs Racing, hein, puisque le petit-fils gagne en Xfinity la veille, et puis, bah, là, c'est, entre guillemets, la nouvelle recrue, qui gagne dès sa deuxième course, Christopher Bell. Donc, première victoire en carrière sur un routier, comme Chase Elliott, il y a 2 ans. Après, c'est une victoire,
Oui.
et... Voilà, qui est mérité. C'était le seul qui est en mesure de pouvoir suivre Chase Elliott. On l'a vu à un moment où ils avaient quoi, presque 7 ou 8 secondes d'avance tous les deux sur le reste du peloton. Et puis bon, bah lui en tout cas, il a réussi à rester aux avant-postes. Et puis à la fin, il a réussi à passer Joey Logano, qui, je pense, était vraiment en délicatesse avec ses freins. Et voilà, il a fait la différence. Et puis bah, il a, je pense, fait un très grand pas pour sa qualification en playoff.
Oui, on va y revenir après, mais oui, victoire, normalement, ça devrait le faire. Arnaud, t'en as pensé quoi, toi, de cette belle course, et cette victoire de Christopher Bell?
Ben, comme tu dis, c'est vraiment été une belle course. Il y a eu quelques beaux duels. Hein. Donc, tu as parlé de celui de Bell et de Logano. On parlera sûrement celui de Keselowski et de Chase Elliott aussi, je pense. Non, non, ça a été une belle course animée. Bon, il y a aussi le sujet des drapeaux jaunes qu'on abordera un peu plus loin, je pense, une fois Geoffroy. En tout cas, deux premiers vainqueurs sur les deux premières courses, il faudrait remonter, mais je pense que ça fait un bout de temps que ça n'a pas dû arriver.
Je te confirme, je te
Voilà.
confirme. Tu veux la
Ah,
stat?
je suis certain que tu as la stat, Geoffroy.
3 fois dans l'histoire, donc
Oula.
2021, 1949 pour la première, bien évidemment. Enfin, ça paraît logique. Et 1950.
Ouais, donc en plus, c'est à des époques où c'était pas du tout la même compétitivité, quoi. Donc, alors si on met de côté McDowell, bon, qui est un petit peu un cas à part, Christopher Bell, ça confirme quand même le bon choix de la Gibbs et le potentiel du pilote. Donc j'ai hâte de le voir sur le reste de la saison. Mais c'est sûr que là, je pense qu'ils ont eu du nez. Ils ont eu du nez.
Mais c'est comme ce que disait Lilian tout à l'heure, c'est surprise, mais c'est aussi mérité. On l'a vu pendant la course, Christopher Bell, c'est pas une victoire volée ou une victoire surprise comme on a pu voir la semaine dernière sur le Speedway. Là, Bell, il avait la meilleure voiture sur les derniers tours. Il a dépassé Logano à la régulière. Il n'y a rien à dire, c'est 100% victoire méritée sur toute la ligne.
Oui, alors on parle souvent de victoire surprise quand ce n'est pas un des favoris désignés au début de saison. C'est encore plus. Enfin, souvent, on utilise aussi le mot surprise quand c'est une première victoire pour un pilote. Là, tu as raison. Finalement, c'est une demi-surprise parce que Christopher Bell, il est là pour gagner des courses. On sait et on pense que dans sa carrière, il va gagner des courses. Bon, ça arrive très tôt, tant mieux pour lui. Mais c'est effectivement pas une surprise de le voir aux avant-postes. Et voilà, ce que je pense et j'espère, c'est qu'on va le voir aux avant-postes le reste de la saison, même sur les ovales un petit peu moins spécifiques comme Daytona.
Il a bien dans la 95, l'année dernière, Bell. Il avait fait 2-3 belles perfs sur des ovales d'un mile et demi. Et là, il est monté dans la 20. Qui est une des top 3, je pourrais
dire, matos, quoi.
Plus que Gibbs. Et bim, ça enfonce le clou dès la deuxième semaine. Donc, ouais, c'est super prometteur.
Ah, puis c'est vrai qu'on parlait de surprise, mais c'est sûr que pour une première victoire, je pense qu'on n'attendait pas Bell forcément sur un circuit routier. Et qui plus est, on est habitué là depuis quelques temps à voir Chase Elliott qui met une raclée à tout le monde systématiquement. Donc, c'est vraiment la double surprise. Et là, voilà, Christopher Bell, le petit dernier, le premier des quatre Gibbs qui va chercher un damier cette saison, ça aussi, c'est une petite surprise supplémentaire. Hein, quand on connaît le niveau d'Hamlin, de Truex, de Kyle Busch.
Et Kyle Busch, on en dit un mot tout de suite, il a repris son chat noir, c'est pas possible.
D'entrée de jeu.
Faut qu'il fasse quelque chose. Hein. C'est incroyable, quoi. Tu te dis, bon, Daytona 500, admettons, pourquoi pas, mais là, rebelote, et on a vraiment l'impression que ça repart sur la lancée de 2020. J'espère me tromper pour lui, mais...
Il s'en est quand même bien sorti sur le premier tour, il a défoncé le splitter avant droit, oui, mais au final, la voiture était compétitive par la suite.
Oui, puisqu'il s'en sort bien. Enfin, il arrive à remonter, mais il a quand même eu 2-3 sourcils.
Bon, au final, il termine quand même 35e. J'étais obligé de regarder les résultats pour me souvenir de sa place, parce que je ne m'en souvenais plus.
Il a provoqué un drapeau jaune près de la ligne de départ arrivée. Il manque de taper le mur.
Ah oui, c'était un imbroglio, là, avec... Ils étaient 3 de front.
Oui, c'est ça.
Oui. Assez marrant, d'ailleurs.
Et à cet endroit-là, 3 de front, c'est ça pas passe. Le mien. À 3 de front, à cet endroit-là, ça passe pas très bien.
Non.
Okay. Mais bon. On peut aussi revenir peut-être sur la perfo de McDowell, parce que, alors, si on met de côté son premier freinage, qui est clairement pas le meilleur qu'il ait fait dans sa carrière, parce qu'il a vraiment failli le payer cher. Globalement, même si on l'attendait, parce qu'il avait fait un bon résultat l'année dernière sur cette épreuve-là, on va pas dire qu'il confirme parce qu'il n'est pas dans ce statut de jouer le titre, etc. Mais bon, quelque part, il continue à être présent, à faire parler de lui. Il trouve des nouveaux sponsors. Donc, il est plutôt vraiment sur une bonne dynamique.
C'est une bonne chose. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, c'est encourageant à moyen terme pour la Front Row Motorsports qui pourrait voir ses revenus augmenter à partir de la saison prochaine du fait de la victoire au Daytona 500. Et de la participation au play-off. Et on parle quand même de, je crois, $30,000 en moyenne par course. Ce qui n'est pas une paille pour une petite équipe. Enfin, ni même pour une grande équipe, mais voilà, ça peut être utile.
Bah, comme disait Arnaud, McDowell s'en sort très bien, mais on peut même faire un tir groupé dans le top 10 de, entre guillemets, survivants. Parce que Kurt Busch a joué la tondeuse en sortant du kink dans le début de l'année segment. Keselowski, j'ai oublié le nombre de fois où il est à l'envers. Kevin Harvick, ouais, il a tracé sa route sans qu'on l'ait vu plus que ça. Amendinger sur l'autre déboire. Et du coup, McDowell a fini tout droit au premier virage avec un pneu crevé dans la foulée. Et tous ces pilotes font entre 4 et 8. J'aurais pas mis une pièce sur ce top 10, pour être honnête.
Bah, encore moins avec Ryan Preece 9. Hein. C'est une vraie surprise, hein, parce que là, pour moi, si on doit identifier un pilote vraiment un outsider là, qui se montre sur les deux premières épreuves, c'est lui. Hein.
D'ailleurs, de top 10 de suite, hein, puisqu'il a fait top 10 au Daytona 500, il finit 6e et là 9e.
C'est qu'il est vraiment
surprenant. Et c'est autant de top 10 que l'année dernière sur 36 courses. Hein.
Il est un peu obligé, hein, parce qu'il est en open maintenant, il a plus sa place de charter.
C'est ça.
Donc il est obligé de faire des résultats pour être sûr d'être au départ. Donc voilà un petit peu pour le top 10 de cette course. Messieurs, quand même, un des événements quand même qui est revenu tout au long de la course, ça a été ces drapeaux jaunes. On a eu, je crois, c'est 10 drapeaux jaunes de plus que la saison dernière sur le routier de Daytona pour l'ensemble des trois séries nationales NASCAR. Et il y a eu une question qui s'est posée, c'est pourquoi on n'utilise pas plus les drapeaux jaunes de zone, qui sont en fait des drapeaux bleus en NASCAR, mais pour ne pas réduire les écarts dans tout le peloton, quoi. C'est un peu posé comme question de savoir pourquoi on sortait systématiquement le drapeau jaune et la voiture de sécurité quand il y avait un pilote qui était dans un bac à gravier quelque part. Est-ce que ça vous a choqué?
Enfin, non, ça m'a pas choqué. Moi, ça m'a pas choqué parce qu'on est habitué à ça en NASCAR. Donc, c'est sûr que avec un regard de championnat européen, c'est pas l'habitude. Comme tu dis, on fait plus des zones de neutralisation locales sur un virage ou sur un passage. Là, finalement, ça permet de resserrer un petit peu. Je pense qu'il y a deux, trois pilotes du top 10 qui sont bien contents qu'il y ait eu des drapeaux jaunes complets et pas seulement partiels, parce que ça leur a permis de se repositionner, de refaire des restarts et de gagner quelques places au niveau des restarts. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est spécifique à cette compétition. Bon, ça nous permet d'avoir des courses disputées, d'avoir du spectacle, d'avoir des voitures qui se frottent. Moi, je suis pas du tout choqué par ce genre de truc. Puis c'est quand même une course de 3 heures à un moment donné. Donc, si pendant 3 heures, en plus, il se passait rien et qu'il n'y avait pas autant de restarts qu'on a eu là, je crois qu'il y a eu 8 restarts, ça pourrait faire que la course paraisse encore plus longue.
Après, le problème que je pense Geoffroy veut soulever, c'est que la course de truck, pour ceux qui l'ont regardé, c'est un festival, la fin de course. Et au final, la course a fait plus de 2h30 de mémoire, et c'était plus long que la course de Cup sur le routier Daytona l'année dernière. Je comprends la question du est-ce qu'on a besoin de lancer des drapeaux jaunes pour rien, et surtout qu'ils prennent 2 à 3 tours du routier à Daytona, qui est très long et qui prend un temps phénoménal sous drapeau jaune. La tension, elle diminue du côté des spectateurs et des téléspectateurs. Et franchement, regarder des pubs et voir des voitures tourner sous drapeau jaune, c'est pas fun, on est d'accord. Donc,
ouais, mais par contre, parce que pour moi, l'avantage aussi du circuit routier, c'est que ça peut durer longtemps en temps. Par contre, c'est vraiment, sauf cas particulier, je crois qu'il y a eu quasiment qu'un tour à chaque fois de drapeau jaune. Alors c'est long un tour, enfin, il y a un tour plus le tour de lancement. Donc on peut compter 2 tours, mais ça reste que 2 tours, quoi. Donc tu vois, finalement, ça reste assez court sur le déroulé de la course.
Ouais, enfin, heureusement qu'en 2 tours, au final, ça fait pratiquement 10 minutes. Heureusement qu'ils ont le temps de débarrasser la voiture quand il y en a une, quoi.
Tu vois, enfin, c'est comme il y a d'autres disciplines où 10 minutes, ils ont pas le temps de le faire. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais justement, parce que des fois, si c'est juste un drapeau jaune local, t'es obligé d'être plus attentif, tu prends plus de temps, plus de mesures de sécurité. Là, finalement, si tu prends l'aspect sécuritaire, en neutralisant tout, bah, voilà, les gars qui vont sur la piste à pied, bah, ils sont quand même plus en sécurité que, par exemple, sur certaines courses en Europe où bah, tu neutralises que dans un virage et bah, il peut y avoir des suraccidents, quoi.
C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, c'est vrai que ça a un petit peu choqué, et même aux États-Unis, quoi. Donc le débat se pose même aux États-Unis, où ils sont habitués à avoir des courses enfin, sur ovale et des drapeaux jaunes. Tu te dis qu'il y a peut-être une réflexion à mener, même si je te comprends, Arnaud. On est aux États-Unis, et puis bah,
C'est une
c'est du
habitude, hein,
sport, mais c'est aussi du
malheureusement.
spectacle, hein. C'est du sport et du spectacle, quoi. Donc il faut un peu de tout. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi sur cette course? Christopher Bell qui a gagné, ça on l'a déjà dit, avec Michael McDowell. Ça nous fait déjà deux places, en théorie, d'acquises pour les playoffs, pour la saison 2021. Donc il ne resterait que 14 places à décerner, sauf si on venait à avoir plus de 16 pilotes vainqueurs. En gros, est-ce qu'on peut avoir plus de 16 pilotes vainqueurs? Est-ce que ça vous semble logique, Lilian?
J'ai envie de dire, vu comme la saison part, tu viens de le dire, il y a des nouvelles pistes qui vont arriver, il y a plus de circuits routiers. J'ai pas le record en tête du nombre de vainqueurs différents sur une saison depuis que les playoffs sont instaurés, depuis qu'on doit en avoir 16. Je crois qu'on doit être à 12 ou 13 maximum, pas plus. Pourquoi pas? On pourrait peut-être approcher cette année les 16, mais les dépasser, j'y crois pas. Pour moi, Christopher Bell et Michael McDowell, ils seront en playoff. Avec leur victoire, ils sont tranquilles.
Et puis, vu comme c'est parti, ça sera bon en points également pour rester dans le top 35.
Oui, ça devrait le faire.
Donc c'est
Entre
vrai
top
que
30, top 30.
pour rejoindre ce que disait Brad Keselowski dans l'article d'Arnaud, oui, on peut déjà se dire qu'il y aura des gros poissons qui, voilà, qui seront pas qualifiés pour les playoffs cette année. Avec déjà deux places de moins.
Arnaud, non, je t'ai coupé.
Non, mais c'est exactement ça. Et voilà, pour reprendre pareil, la question, c'est si tu gagnes pas là, l'impression qu'on va avoir, c'est que si tu es un des top pilotes, tu as intérêt à gagner une course pour être tranquille. Parce que si les surprises continuent comme ça, bah, y en a qui vont forcément rester sur le carreau. Alors là, il n'y a eu que deux courses, mais tu vois, on prend un William Byron, bah, il est quand même 29e, hein, donc ça commence à faire loin de la qualification. Ça ne veut pas dire qu'on a le temps encore, hein. Il y a de la place pour aller chercher, mais il y a du temps, mais plus tant que ça. Donc, le mieux, à mon avis, les gars, c'est que là, il faut aller chercher une victoire, comme ça, après, tu peux jouer placé, tu n'as plus trop besoin à te stresser, mais là, il y en a quand même qui doivent commencer à compter les points et se dire, il faut remonter absolument au classement général parce qu'on est très très loin de la qualification.
Puis ça va faire un enchaînement de dominos au final, puisque avec la tendance qui se dessine, les équipes, on va dire intermédiaires, donc pas les top teams, mais celles qui sont à la limite de se qualifier à chaque saison, vont être encore plus incitées à gagner, puisqu'il y aura techniquement moins de places disponibles pour une qualification au point. Du coup, ça va s'enchaîner, et les équipes qui ont le plus besoin de victoire vont vouloir acquérir cette victoire. D'où le fait que les gros poissons comme Byron, par exemple, que vous citiez, vont être en danger de ne pas se qualifier, notamment au point. Donc, je pense que ça peut lancer un domino assez intéressant. Au fil de la saison, plus de vainqueurs différents il y aura. Et on risque d'avoir des surprises, effectivement, d'ici quelques mois.
Parce que d'habitude, on parle pas des playoffs après deux courses. Hein.
Ah.
C'est
Là,
parce
on
que
n'a
là,
pas.
c'est tellement spécial avec les deux vainqueurs qu'on a eus.
Ouais.
Oui, mais d'habitude, tu as un Denny Hamlin qui gagne les Daytona 500, donc de toute façon, tu te dis, lui, il allait être en playoff même sans victoire, donc la question ne se posait pas. La deuxième épreuve, ce n'était pas forcément une course routière. Donc, tu vois, pareil, on retrouvait souvent en début de saison bah, des valeurs sûres. Il y avait rarement des surprises, tu vois, dès la deuxième course.
Non,
Donc,
t'as Harvick qui allait gagner à Phoenix, puis voilà.
voilà, donc toi, finalement, c'était des pilotes que soit des anciens champions, soit des favoris en début de saison. Donc, ça choquait personne qui gagne des courses parce que quelque part, ils étaient déjà, enfin, dans la tête de tout le monde, ils étaient déjà en playoff. Là, clairement, tu as deux gars qualifiés pour les playoffs. Je pense qu'il aurait fallu regarder les cotes, mais c'est pas les premiers noms qui te viennent à l'esprit pour quand tu dois citer les si aujourd'hui tu devais citer 16 pilotes qualifiés pour les playoffs. Bah, je suis désolé, c'est clair que McDowell il vient pas dans la liste, et puis Christopher Bell, c'est pas le premier nom que tu allais citer, quoi.
Bah, là, je regarde le classement en général en termes de points à l'heure actuelle, et les pilotes qui ont déjà plus de 80 points de retard sur Hamlin, ce qui est relativement beaucoup. On a du Matt DiBenedetto, on a du Tyler Reddick, on a du William Byron, on a du Chase Briscoe, on a du Eric Jones. Et après, t'as Bowman qui a 75 points de retard, t'as du Almirola qui a 71 points, 70 points pour Ryan Blaney. Et là, on rentre à peine dans le top 20. Donc, certes, il y a encore du temps, mais il y a certains pilotes qui sont clairement en danger.
Vachement de piment aux prochaines épreuves, hein, parce que et puis je pense qu'on va ça se trouve on va dire ça chaque semaine, hein. Chaque semaine quand il y en a un qui va gagner, pour peu que ça soit pas un des 5-6 top pilotes là qu'on a tous en tête pour les playoffs, on va se dire oh putain ça fait encore une place de moins, encore une place de moins, encore une place de moins. Et comme on sait que enfin on sait probablement des Denny Hamlin, Kevin Harvick, Truex, ils vont être capables de gagner 2-3 courses pendant la saison régulière. Ça va pas laisser beaucoup de place pour les autres.
Et souvenez-vous, Daytona l'année dernière, Byron, il se qualifie râle moustache. Hein.
Il va gagner la dernière de la saison régulière.
Oui, on en a gagné, oui.
Ouais. Donc même en temps normal, la saison dernière n'était pas normale, bien qu'il ait eu 36 courses, mais l'un n'empêche pas l'autre, et on peut voir que tu peux être dans une grosse équipe, mais les playoffs, c'est pas acquis. Et avec ces deux nouvelles victoires, entre guillemets, surprises, bah, attention.
Ouais, mais bon, cela dit, on a toujours des victoires surprises sur une saison régulière. Alors là, ça choque parce que c'est en tout début de saison, mais on va retrouver des pistes, entre guillemets, normales. On va avoir des mecs comme Hamlin, Harvick, Truex qui vont venir phagocyter les victoires. Et puis voilà, on va se retrouver avec 10, 12 pilotes en fin de saison régulière qui auront des victoires et ça va passer comme ça. Je regardais en même temps que le débat, le record de victoires Lilian sur une saison depuis 2014 et l'instauration de ce format de playoff, c'est 16 en 2018. Sinon, on est toujours autour de 13. Donc okay. on est large.
Du coup, est-ce que tu mets Kyle Busch dans tes vainqueurs en 2021?
Hey, tu sais quoi? Je mets Kyle Busch champion de la saison régulière. sans victoire avec 16 vainqueurs.
Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'approuve.
Ah non, je pense qu'il va en claquer une. Je pense. Il a le métier pour, donc. Après. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise pour Kyle Busch, mais non, je pense que ça gagne. Après, on va pas refaire notre top 16 aux uns et aux autres, parce que sinon, on fait une émission d'une heure et demie supplémentaire. Mais c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu dans l'idée. Les Gibbs, ils seront là. Ils seront, à mon avis, ils seront tous là. Donc voilà un petit peu pour cette course de Daytona, messieurs. La NASCAR, a priori, elle a pris goût à la Floride, hein, puisque après deux courses à Daytona, trois si on compte le clash, on reste en Floride, on va à Homestead, sur un ovale d'un mile et demi. Donc cette fois-ci, il peut pleuvoir. La course, elle sera reportée. Donc troisième course en Floride. Est-ce que vous voulez les horaires? Parce que je sais que Lilian, tu n'attends que ça. Tu vas finir par me demander le départ de la course. Je ne l'ai pas. J'ai que l'heure théorique. Je n'ai pas le drapeau vert. C'est 14h30 heure locale, 20h30 en France. Pour 267 tours.
Ça va être du 20h45, enfin 20h47, un truc comme ça, quoi.
Ouais, en général, la SNCF NASCAR, c'est du 20h47, 20h48. Messieurs, est-ce que vous avez un pronostic pour Homestead?
Harvick.
Truex.
Moi je vais dire Tyler Reddick.
D'accord, et eh ben écoutez, je vais vous dire Kyle Larson, qui est quand même souvent très très bon à Homestead. Maintenant que c'est plus en playoff, il peut aller gagner, il n'y a pas de souci, il est plus obligé de se garer.
Faut qu'il fasse attention au mur de pneus par contre, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Allez, messieurs, histoire de terminer l'émission en beauté. Un petit j'aime, j'aime pas, une info qui sert à rien si vous avez. Ouais, on va commencer avec Arnaud.
Ouh là là, tu m'as pris à froid là.
Ouais, 25 minutes non, d'émission, non, c'est pas à froid. Ouais.
Donc, moi, j'aime bien le fait qu'on va quand même retrouver des, entre guillemets, des vrais circuits. Là, bon, Daytona, ça reste Daytona. Une course routière, voilà, c'est bien, c'est spectaculaire. Maintenant, on va arriver sur, voilà, sur ce qui fait le cœur de la NASCAR et de la saison. Ce que j'espère, c'est qu'on va vraiment commencer à voir les forces en présence. Avec le vrai potentiel des équipes, des pilotes. Donc voilà, donc je suis plutôt content parce que pour moi, c'est quand même. D'habitude, c'était la deuxième course. Là, c'est la troisième course, mais c'est pour moi, là, le vrai début de la saison.
Les ovales d'un mile et demi. Le bonheur.
En haut de 7, c'est bien.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est chouette. Il y a des palmiers et tout. Il fait beau, chaud.
Parle de météo, s'il te plaît. Hein.
Et je gêne pas, Arnaud.
Bon, écoute, j'en ai pas qui me viennent.
D'accord, ok. Ouais. Aloïs.
Eh bien, moi, mon j'aime, Lilian en a effleuré le sujet tout à l'heure en début d'émission.
Oh, cet enfoiré.
C'est la victoire et surtout la super performance de Ty Gibbs en Xfinity qui, pour sa première course en série nationale NASCAR, tout simplement, bah, claque une victoire et pas les moindres puisque la manière y est. Franchement, le coup de volant à 18 ans, et ben, impressionnant. J'étais sur le cul et le dépassement qu'il fait sur les derniers instants, c'était quelque chose. Et surtout, c'était face au Cindric,
c'était Cindric.
Ouais. Sur Cindric, le grand favori pour le titre. Franchement, chapeau. Et surtout, en plus, il nous a donné une belle histoire avec ses crackers au beurre de cacahuète. Tip top, 10 sur 10.
Non, c'est clair, franchement, c'est super ce qu'il a fait, super spectaculaire. Moi, j'ai vraiment été impressionné par le pilotage. Et toute la course, hein, pas que la fin, vraiment toute la course. Mmh. Certains diront qu'il était un peu agressif. On va dire qu'il était spectaculaire. Mais il ne faut juste pas trop. Il faut juste trouver la bonne limite.
Et puis, il a même lâché quelques larmes en interview d'après-course.
Ouais, il n'a pas été capable de vraiment donner ce qui de s'exprimer. Hein. C'était assez touchant.
Ouais.
Et le j'aime pas.
J'aime pas les audiences NASCAR qui sont pas tip top. J'ai vu des stats tout à l'heure. Et ben 2,8 d'audience pour le routier Daytona qui est la plus basse valeur pour la deuxième course d'une saison depuis. Depuis toujours, c'est moins bon que Vegas l'année dernière, par exemple.
Donc, faut convertir les Américains en routiers.
J'ai pas l'impression que ça marche pour l'instant.
Ben, la voiture n'aide pas. On verra en 2022 si ça va mieux.
On verra.
Tiens, Lilian.
J'ai commencé avec mon j'aime pas. Je pense que c'est Louis qui m'a acheté un sort l'an dernier. Parce que je m'étais moqué de lui parce qu'il crevait en vélo et moi je continue à crever en voiture.
Ah, tiens, le karma!
Donc ouais, ça m'est encore arrivé il y a une dizaine de jours pendant mes congés, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais ouais. Et les deux pneus avant ont été changés, mais c'est à l'arrière que j'ai crevé maintenant.
C'est quoi ta marque de pneus?
Bah, là où tu bosses, Geoffrey Arnaud.
Ah mince, je peux pas bâcher.
Ouais, mais en même temps, ce qu'il te dit pas, c'est qu'il fait du tout terrain avec sa voiture, quoi. C'est pas prévu pour.
Il va dans les. Là,
même pas. Donc c'est tout, c'est comme ça.
Ouais, c'est moche. Et le j'aime?
Ah bah, le j'aime, c'est la lecture que tu nous donnes à Aloïs et à moi. Les articles que tu nous partages, c'est quand même du bonheur, quoi.
Ouais, j'ai vu ça, je me suis dit que ça vous ferait plaisir.
Bah, ouais,
je suis pas dans la liste de diffusion, les gars.
Ils sont forts, ces Alsaciens, quand même. Hein.
Arnaud, c'est une histoire de salsifis dans le train, pour faire simple.
De plaisir solitaire.
Je vais passer mon tour.
Bon allez, je commence avec mon j'aime. Je ne sais pas si vous avez fait attention, messieurs, pendant la course, la discussion que je vais qualifier de lunaire entre AJ Allmendinger et son chef d'équipe Chris Rice au début du deuxième segment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la retrouver. Je crois que c'est sur le Twitter de la Fox. C'est juste hallucinant. C'est 15 secondes. Sous drapeau vert, quand tu vois la discussion d'Almendinger, tu te dis ce mec est quand même fou.
Donne un peu de contexte, voilà, peut-être pour ceux qui l'ont pas entendu ou qui répondent.
Il parlait de bière et de Dollar General en parlant d'un adversaire. Je crois que c'était Kurt Busch. Je crois qu'il parlait, il se moquait de Kurt Busch qui avait dû sortir de la piste à ce moment-là. Et tu te dis, mais comment il peut faire tous ces rapprochements alors qu'il est en train de rouler et d'essayer de le dépasser, quoi. Donc, j'ai trouvé ça marrant, le chef d'équipe qui s'en amuse aussi de la situation, c'était assez savoureux. Voilà, et mon j'aime pas, c'est la descente technique du Saint-Odile qui est fermée en ce moment pour cause de risque de neige et de verglas, alors qu'il fait quand même 15 degrés au sommet. On ne doit pas avoir la même notion de risque de neige et de verglas.
L'alerte météo, c'était il y a 2 semaines. Hein.
C'est ça. Ouais, non, mais pour remonter, enlever les panneaux, c'est compliqué. Donc voilà. Et l'info qui sert à rien, messieurs, je crois qu'on n'en a pas parlé, c'est sur e-racing. Vous savez qu'ils ont fait le Bristol Motor Speedway en dirt. Il va y avoir une course de dirt en NASCAR dans quelques semaines sur cette piste. Figurez-vous qu'ils ont quand même réussi à modéliser la pelleteuse et les deux personnes qui s'occupent de la pelleteuse pour étaler la terre. J'ai trouvé ça très très beau. Et les deux personnes qui s'occupent de la pelleteuse, elles sont à côté de la pelleteuse, les bras en croix. C'est magnifique.
En mode DDE.
C'est ça. Habillé en orange.
Si je peux juste rebondir sur cette info-là, il se murmure que les qualifs de Bristol, ça serait des courses.
Oui,
qui ferait des séries en fait de qualification avant la course sur terre.
Un petit peu comme il faisait à l'Eldora en truck.
C'est ça.
Pas mal.
Ça pourrait être intéressant.
Messieurs, ça va casser de la caisse.
Ça devrait.
On ne demande que ça.
Vivement la fin du mois de mars. Messieurs, on va s'arrêter là-dessus. On va se donner rendez-vous ce week-end pour suivre ce qui se passe du côté de Miami. Et puis la semaine prochaine, on devrait débriefer tout ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Bonne semaine, à bientôt, bye bye.
À la semaine prochaine, bon courage.
Bonne semaine à tous, ciao.